Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, ballonnements, brûlures, remontées acides, flatulences. Qui n'a pas souffert de maux de ventre? Ils peuvent être dus à des excès d'ordre alimentaire, à une digestion difficile, un sujet d'actualité après les fêtes de fin d'année et les repas copieux. Comment soigner les maux de ventre qui ne sont pas une fatalité et comment les éviter? Quelles sont les complications possibles? À partir de quel moment faut-il consulter un médecin? Et peut-on d'ailleurs se traiter soi-même? Et si oui, comment? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec le professeur Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, chercheur à l'INSERM et président du groupe français de neuro-gastro-entérologie. Quant à vous, vous pouvez nous appeler dès à présent au 33 1 84 22 75 75. Toute la semaine, nous donnons la priorité à vos questions, à vos témoignages pour bien débuter l'année. N'hésitez pas à nous appeler, je vous redonne le numéro, le 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, nous serons également en ligne avec le professeur Alain Attia, chef de service adjoint en hépato-gastro-entérologie au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, pour terminer cette émission, nous reviendrons sur l'épidémie de grippe déclarée en France, qui concerne l'ensemble du territoire. Comment se protéger de la grippe et puis comment éviter de transmettre cette maladie. Professeur Jean-Marc Sabaté, bonjour.
Bonjour.
Alors, les maux de ventre peuvent être d'origine différente, mais qu'est-ce qui se passe quand on a mal au ventre? À quoi peuvent être dues ces douleurs?
Alors, les douleurs au niveau du ventre peuvent être liées à plusieurs types de problèmes. Déjà, le ventre, c'est un terme assez large. Ça peut être des douleurs au niveau de l'estomac, ça peut être des douleurs au niveau du côlon. Et il est parfois difficile de soi-même savoir exactement où est l'origine de la douleur. Et il y a des mécanismes de douleur également qui sont différents. Je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a il y aura des questions sur ces différents types de douleurs.
Effectivement, beaucoup de questions d'auditeurs. La digestion est un phénomène qui se joue tous les jours dans notre corps. Et pourtant, parfois, on a du mal à en avoir conscience, à appréhender ce qui se passe vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la digestion? Quel est le trajet d'un aliment en temps normal quand il n'est pas perturbé?
Alors, ce que les gens appellent globalement la digestion, ça comprend plusieurs phases. Après la phase d'ingestion des aliments, les aliments descendent dans l'œsophage, arrivent dans l'estomac. Là, il va y avoir une phase de brassage des aliments. Et puis, les aliments avec déjà l'acidité qui se trouve dans l'estomac vont entamer un processus qui va commencer à les transformer. Et puis, ils vont passer ensuite dans le duodénum, l'intestin grêle. Et dans le côlon, il va y avoir progressivement des absorptions, mais aussi des fermentations qui peuvent provoquer des symptômes. Donc, tout un tas de mécanismes. Et puis, tout ça nécessite des actions coordonnées, une propulsion, des contractions du muscle digestif qui peuvent être perturbés dans certains cas et occasionner des symptômes.
Alors nous sommes en ligne avec Théa Doum à Béboto au Tchad. Bonjour Théa Doum.
Bonjour Charlie, bonne année et bonjour au professeur.
Bonne année à vous aussi, on vous écoute Théa Doum.
Au fait, il y a pratiquement un an que je souffre de la constipation chronique. Et le matin quand je me réveille, je constate que mon ventre est plein. On dirait que quelqu'un qui a beaucoup mangé. Pourtant, je n'ai rien touché et automatiquement, je sens le besoin d'aller à la toilette. Mais si je vais aux toilettes, rien ne sort. J'ai essayé de prendre les médicaments traditionnels, mais le problème perdure.
Qu'est-ce que vous entendez par médicaments traditionnels?
Bon, c'est des écorces et autres que je l'essaye des arbres que je prends. Surtout des choses amères, quoi, des choses amères. Juste question de résoudre le problème. Mais ça perdure. Alors j'aimerais savoir quelle pourrait être à l'origine de ces problèmes de constipation et comment je peux faire pour remédier, parce que les médicaments traditionnels que je prends, ça ne résout pas du tout le problème.
Merci Tadoum pour cette question. Professeur Jean-Marc Sabaté, cet auditeur souffre de constipation chronique. Comment l'expliquer et puis comment y remédier ?
Bonjour Tadoum, tous mes voeux également. Je ne sais pas quel âge a Tadoum.
Quel âge vous avez Tadoum ?
J'ai 27 ans.
27 ans.
D'accord, parce que l'âge est une question importante à prendre en compte, parce que pour des phénomènes récents, suivant l'âge, ça peut être plus ou moins inquiétant. Et donc là, à 27 ans, on n'est pas trop inquiet qu'il ait une maladie grave. Mais à partir de 50 ans, on peut avoir des polypes et même certains risques de développer un cancer. Et donc la prise en compte des symptômes à un âge différent peut avoir des conséquences différentes pour les examens qu'on conseille. Là, probablement, s'il a des difficultés pour aller à la selle, il y a deux types de problèmes dans la constipation. C'est la progression des selles qui peut se faire de manière insuffisante et aussi l'évacuation. En fait, il y a ces deux mécanismes-là qui jouent et qui peuvent être perturbés individuellement ou les deux en commun. Quand les gens essayent d'aller à la selle, poussent fort, ne réussissent pas à évacuer les selles, souvent ils ont ce qu'on appelle, nous, une dyschésie, un trouble de l'évacuation. Et pour ça, il peut y avoir des anomalies, en fait. On se rend pas trop compte, mais l'apprentissage de la propreté, c'est un phénomène qui prend plusieurs semaines. Et en fait, quand on pousse, quand on ressent l'envie d'aller à la selle, qu'on pousse, on a normalement une relaxation de l'anus, hein, qui ouvre la porte pour que les selles puissent sortir. Mais certaines personnes, involontairement, peuvent avoir mal appris ou désappris et fermer la porte, bloquer, serrer involontairement l'anus. Ça, ils ne s'en rendent pas compte du tout. Et ça empêche les selles de sortir.
Et à partir de quel moment peut-on parler de constipation ?
Alors, la constipation, la définition, il y en a plusieurs. Il y a la constipation ressentie par les gens. Hein, c'est le fait d'avoir des difficultés pour évacuer. Même des gens qui vont parfois tous les jours à la selle, mais qui passent une demi-heure, trois quarts d'heure avec des efforts très importants, se sentent constipés. D'autres personnes vont aller à la selle une fois ou deux par semaine, celles-là aussi sont constipées, mais de manière différente. Donc en fait, c'est le ressenti des gens souvent qui compte pour la définition. Là, je pense qu'il a plutôt un blocage à l'évacuation. Alors, ça peut parfois se rééduquer, mais il y a aussi des petites choses simples qu'il faut faire. C'est toujours répondre à une envie d'aller à la selle, parce que parfois la vie sociale fait que c'est difficile, mais voilà, faut prendre son temps, ne pas être pressé. Souvent, c'est une demi-heure après le repas que en fait l'envie est la plus forte et qui sera le plus simple d'aller à la selle. Il faut y aller dans des conditions où on n'est pas stressé voilà, et des fois la surélévation, je sais pas comment sont ces toilettes, mais la surélévation légèrement des pieds sur une boîte de chaussures, sur un petit tabouret peut aider à ouvrir un angle aussi qui facilite l'évacuation des selles. Donc ça peut être des petits moyens que peut utiliser Tadoum déjà, et puis sinon des laxatifs. Alors je connais pas trop les effets de ces écorces, mais il y a des laxatifs de différents types qui peuvent être utilisés
en
également.
Évitant aussi de trop en prendre, ce qui est pas le risque.
Suivant les laxatifs, il y en a qu'on peut prendre de manière régulière quand même quand on a un problème qui ne se règle pas autrement. C'est sûr que si on peut, en modifiant son alimentation, par de l'exercice, par différents moyens améliorés, c'est mieux. Mais il y a certains laxatifs que les gens peuvent prendre toute leur vie sans que ça pose de problème.
Et justement, vous parlez d'alimentation. Il s'agit aussi de la modifier, de manger plus de fibres, de légumes.
Voilà, donc pour Tadoum, je ne sais pas s'il consomme beaucoup de fibres, mais il pourrait augmenter progressivement sa ration en fibres et voir si c'est un effet positif sur son transit. Et puis utiliser tous les petits moyens qu'on a cités avant pour essayer d'améliorer les choses.
Merci Tadoum pour votre question. Nous sommes en ligne avec Bongo à Abéché au Tchad. Bonjour Bongo.
Bonjour Charlotte Dupieux et mes meilleurs voeux à toute l'équipe RFI.
Meilleurs voeux à vous également, on vous écoute Bongo.
Merci, au fait, il y a depuis un certain temps, je crois plus de 5 ans, je souffre de douleurs abdominales, surtout au niveau du bas-ventre. Et généralement après un repas, je sens des douleurs intenses, 30 minutes, deux fois une heure et ça disparaît. Et ainsi de suite, dans la journée, la douleur là, se répète malgré que j'ai pris des traitements, c'est pas médicaux, pharmaceutiques. Ça n'a pas résolu le problème. Mmh. Et ces derniers temps, ça fait pratiquement un mois en plus, je crois que je fais, c'est comme s'il y a assez de gaz dans l'estomac. Donc je fais régulièrement des gaz souvent et puis en plus, je rôde quoi. Donc le ventre est toujours plein, pour que je ne sais pas, ballonner des fois, oui.
Et qu'est-ce que vous avez mangé dans ces cas-là, quand ces flatulences arrivent ?
Bon, c'est le repas habituel, le repas quotidien, mais beaucoup plus ça s'accentue lorsque c'est un repas un peu sucré.
Sucré, c'est-à-dire avec quel type d'aliments?
C'est-à-dire, si c'est, par exemple, si je suce des bonbons, je prends un peu, par exemple, c'est pas un plat un peu sucré, je sais pas. Dates, par exemple, tout ce qui est sucré.
Et un repas habituel pour vous, qu'est-ce que c'est? Un repas
Le repas habituel, généralement, c'est, je ne sais, peut-être la boule accompagnée avec, c'est pas des légumes, et puis comme ça, des fois, c'est des trucs, des aliments un peu secs. Et des fois, c'est des légumes, ainsi de suite, des gombo, tout ceci, cela.
Merci, Bongo, pour votre témoignage et pour ces questions, professeur Jean-Marc Sabaté. Alors, comment expliquer ces douleurs-là au niveau du bas-ventre et puis comment y remédier?
Alors, bonjour Bongo, je note qu'il a des douleurs déjà depuis 5 ans, donc... Bon, il s'est rien passé apparemment de grave dans ces 5 années, donc ça c'est quand même rassurant. Donc on est vraiment dans le cadre des douleurs chroniques. Il a parlé de plusieurs autres symptômes, du fait qu'il rote souvent, donc les éructations aussi, les flatulences, le ballonnement. Donc on est vraiment dans le cadre des troubles fonctionnels. Alors pour l'alimentation, il y a certains aliments qui peuvent favoriser la production de gaz, notamment au niveau du côlon, parce que c'est là où on a le maximum de bactéries. Hein. On a à peu près 1 kilo de bactéries au niveau du tube digestif, et l'essentiel de ces bactéries est situé au niveau du côlon. Et donc certains aliments, notamment des sucres, alors pas forcément au goût sucré, mais au sens biochimique du terme, mais qui peuvent être aussi dans des aliments sucrés, même dans des bonbons, dans des chewing-gums, par exemple, peuvent favoriser ces fermentations. Et donc, ces fermentations font que ces bactéries vont produire plus de gaz, avoir donc des flatulences, une sensation de distension du ventre qui peut être réelle, même certaines personnes, parfois des femmes disent c'est comme si j'étais enceinte, et il y a 2/3 des gens qui ont la colopathie fonctionnelle qui ont des seuils abaissés à la distension, c'est-à-dire que si on leur gonfle un ballon, ils vont avoir des douleurs plutôt que des gens qui ne se plaignent pas de ce type de problème, et donc là l'augmentation du volume par les gaz produits par les bactéries va déclencher la douleur. Donc ballonnement, flatulence, douleur, et pour certains même diarrhées, peuvent être liées à la consommation de ces sucres. Alors il faut les repérer, il y a des listes sur internet de ces sucres-là, et c'est le régime qu'on appelle pauvre en food maps, qui est actuellement un petit peu
alors,
à la mode.
Alors quels peuvent-ils être ces sucres-là par exemple?
Alors pour nous, mais aussi certains fruits peuvent être consommés, alors il faut éliminer parfois des aliments qui contiennent du lactose, mais aussi bien que ce soit pas un régime sans gluten, certains aliments qui contiennent du gluten peuvent provoquer aussi ces fermentations. Il y a des fruits, beaucoup de fruits, des fruits à noyaux notamment.
Donc il faut éliminer.
Alors diminuer la quantité, pas forcément les stopper complètement, mais pour certaines personnes ça peut être un traitement efficace. Ce régime qui est proposé depuis quelques années par les collègues australiens améliorerait 70% des gens. Alors ça dépend de ce que les gens mangent dans leur alimentation au quotidien. En France, moi, j'ai l'impression que ça améliore moins de gens qu'en Australie, probablement, qui prennent plus de sucre que nous.
Mais est-ce qu'on peut réintroduire ensuite ces aliments progressivement?
Effectivement, on peut les réintroduire, et notamment, les gens n'ont pas forcément des problèmes avec tous les sucres. Ils sont catégorisés en 4 catégories, et donc on peut faire des tests pour voir quelle catégorie vous pose problème, et donc élargir quand même ce régime qui est quand même contraignant pour les gens au quotidien.
Alors justement, on a une auditrice à qui on a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle. Nous sommes en ligne avec Fatima, qui est à Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour Fatima.
Bonjour.
On vous écoute, Fatima.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour aux éditeurs et aux éditeurs de la radio. En fait, ça fait presque 2 ans, ou presque 1 année en fait. Ça fait 2 ans que j'étais malade, mais 1 année qu'on m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle. Donc j'ai suivi un traitement pendant 3 mois. Et depuis lors, bon, je suis revenue en Mauritanie, mais j'ai toujours des problèmes en fait de ballonnement, de constipation des fois, mais plutôt ce qui me fatigue, c'est le hockey. Ça peut prendre 24 heures et des fois je suis hospitalisée. Donc je voulais des conseils en fait pour mon régime alimentaire parce qu'ils me disent que c'est plutôt parce que c'est un résultat en fait de mon alimentation. Donc je voulais des conseils.
Et vous suivez un traitement, Fatima?
Actuellement, je ne suis plus en traitement parce que j'étais partie à Dakar. C'est là-bas qu'on m'a diagnostiqué la maladie. Et donc, j'ai suivi 3 mois de traitement. Et depuis lors, le traitement il est terminé. On me dit il faut faire attention aux pâtes, il faut faire attention aux aliments qui sont secs. Mais je ne peux pas tout me nourrir de salade. Ah oui. Et cela, j'ai souvent des problèmes, des ballonnements. Et le plus souvent, c'est le hockey. Ça peut prendre toute une journée, en fait, 24 heures. Et puis, des fois, je suis hospitalisée. Et bon, je prends des médicaments et puis après, ça va. Mais ça me fatigue souvent.
Professeur Jean-Marc Sabaté, effectivement, Fatima ne peut pas se nourrir essentiellement de salade. Effectivement, quel conseil on peut lui donner quant à son régime alimentaire?
Donc pour le régime de Fatima, je sais pas exactement ce qu'elle mange. Effectivement, manger que des salades, ça paraît difficile. Alors le problème de hockey, c'est quand même un peu différent de la colopathie fonctionnelle. Ça fait pas partie des signes associés de la colopathie elle-même. Le hockey, ça peut être associé notamment à des remontées d'acidité dans le cadre du reflux.
Et qui sont un autre problème.
Qui est un autre problème. Alors, il y a certaines personnes, comme le reflux est fréquent, comme la colopathie est fréquente, qui présentent malheureusement pour elles les deux problèmes en même temps. Et là, dans le cadre du hockey, à ce moment-là, c'est peut-être, s'il y a un surpoids, essayer de diminuer le surpoids parce que ça peut améliorer le reflux. Sinon, c'est certains aliments qui favorisent le reflux, essayer de les éviter ou de se coucher juste après les repas qui peut aussi favoriser le reflux. Et sinon, prendre des traitements qui jouent plus sur l'acidité pour ce problème de hockey, et voir si en traitant le reflux, elle n'a plus ce hockey quand même qui est assez gênant puisqu'il l'emmène à l'hôpital.
C'est pas si fréquent. Et la colopathie fonctionnelle, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors, cette maladie a changé de nom, ce qui veut dire qu'on a encore quelques choses qu'on ne comprend pas bien dans cette maladie.
Hein, c'est très répandu.
Alors, c'est très répandu. C'est de l'ordre de 10% environ. Hein, et ça peut être le même pourcentage dans des pays où les gens n'ont pas forcément la même alimentation, ce qui veut dire que l'alimentation non plus n'explique pas tout. Et là, effectivement, l'alimentation peut jouer un rôle, comme on l'a dit pour l'auditeur précédent, avec certains aliments qui peuvent provoquer des symptômes, notamment par les processus de fermentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation. Il y a tout un tas de mécanismes différents qui peuvent jouer. Et les traitements, là, elle a eu un traitement de 3 mois. Malheureusement, c'est une maladie chronique. Donc, si le traitement était efficace, c'est dommage de ne pas le poursuivre. Mais c'est vrai que certaines personnes jeunes n'envisagent pas de continuer un traitement toute leur vie pour ce problème-là.
Alors, on a parlé d'alimentation. Il y a aussi la question de la mastication. Il faut bien mâcher ces aliments pour mieux digérer.
C'est une règle générale, mais il n'y a pas forcément de lien. En tout cas, nous, c'est pas quelque chose qu'on questionne par rapport à la colopathie. Maintenant, il y a des gens qui peuvent manger très vite. Et il arrive parfois que certaines personnes, d'ailleurs, avalent de l'air pour les gens qui ont des éructations fréquentes en même temps qu'ils ingèrent les aliments. Et ces gens-là ont une tendance à avoir des éructations importantes immédiatement après les repas parce qu'ils doivent rendre tout l'air qu'ils ont ingéré de manière involontaire.
Alors, par rapport au problème de constipation, on entend souvent qu'il vaut mieux dîner léger, prendre un repas du soir qui est léger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'adage petit déjeuner de roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant est véridique? Est-ce que c'est des conseils qu'il faut respecter?
Alors je ne connaissais pas cet adage, mais il vaut mieux avoir une charge en calories qui est équilibrée sur la journée. Et peut-être les gens qui sautent des repas et font après un repas plus copieux, effectivement, ça peut être plus difficile à supporter.
Notamment parce que c'est compliqué de digérer allongé, en position allongée.
Alors, il y a pas, on a peu d'études là-dessus, hein, des études qui enregistraient la motricité du tube digestif ont été réalisées, mais ce qu'on sait, c'est que la motricité la nuit, hein, qui peut être liée, est différente. Elle est plutôt diminuée par rapport à celle de la journée, mais il y a aussi des phases différentes par rapport au repas. Le repas lui-même déclenche une motricité qui est différente. Hein, il y a ce qu'on appelle des phases interdigestives. Il y a les phases qui propulsent les aliments, surtout le trajet. Et donc, il y a différentes phases qui sont bien rythmées normalement par rapport au repas. Mais on peut manger et se coucher après si on mange de manière pas trop
abondante. Et avoir une alimentation équilibrée, c'est la clé. Professeur Jean-Marc Sabaté, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'informations sur RFI. Si vous voulez participer à notre émission, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 75 75. 33 1 84 22 75 75. A tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
Priorité santé. Charlie Dupiot.
bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons des maux de ventre aujourd'hui dans Priorité Santé. Après les repas souvent copieux des fêtes de fin d'année, ces douleurs peuvent être très fréquentes, voire permanentes chez certains. Comment les soigner et puis comment les éviter? Alors si vous vous sentez ballonné, si vous souffrez par exemple de remontées gastriques ou d'autres problèmes liés à la digestion, c'est le moment de nous appeler au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75 pour poser toutes vos questions à notre invité, le professeur Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny et chercheur à l'INSERM. Il est là pour vous répondre et pour nous éclairer. Et nous sommes en ligne tout de suite avec le professeur Alain Attia. Bonjour.
Bonjour, Madame Dupuyot.
Vous êtes chef de service adjoint en hépato-gastro-entérologie au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'être en direct avec nous. Alors, nos auditeurs nous ont beaucoup parlé de leurs problèmes de constipation, de ballonnement en première partie de cette émission. Quels sont les principaux motifs de consultation dans votre CHU pour la gastro-entérologie?
Merci, je profite de l'occasion pour vous présenter à vous, professeur Sabaté, et à tous les auditeurs, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Meilleurs vœux à vous également.
Alors, les douleurs abdominales constituent véritablement le principal motif de consultation en médecine générale et en hépato-gastro-entérologie avec la constipation et les sensations de ballonnement que le malade peut rapporter. Donc ce sont vraiment des motifs très fréquents de consultation en médecine générale et en hépato-gastro-entérologie.
Et quelles en sont les causes de ces douleurs abdominales-là?
Alors, il y a deux grandes catégories. C'est essentiellement ce qu'on appelle des pathologies fonctionnelles, mais il faut savoir rechercher ce que nous appelons des signes d'alarme qui pourraient faire évoquer une maladie organique, c'est-à-dire une maladie associée à une anomalie qui peut être détectée par des examens complémentaires comme l'endoscopie, par exemple.
Il y a aussi une question d'alimentation. Quel est le régime alimentaire de vos patients en général?
En général, c'est une alimentation riche en féculents, pauvre en fruits et légumes. Et dans un certain nombre de cas, les patients ne boivent pas suffisamment d'eau.
Ah, il faut boire de l'eau pour mieux digérer?
Alors, ça fait partie des conseils qu'on donne aussi aux patients, en plus de la modification des habitudes alimentaires, enrichir les aliments en fibres et légumes, en fibres et en fruits et légumes pour permettre de normaliser le transit, avoir des horaires de repas le plus souvent, en général, assez régulières. Plus que de façon anarchique. Et donc, ces différentes mesures sont des conseils qu'on donne des conseils hygiéno-diététiques.
Et quels légumes, par exemple, vous conseillez? Quels fruits en Côte d'Ivoire, à Abidjan?
En général, à Abidjan, ce qu'on conseille, c'est surtout les salades, les courgettes, les concombres, les tomates. Pour les fruits, les fruits, c'est surtout l'ananas, la papaye, qui ont des bonnes vertus pour améliorer le transit de nos patients.
Et ce sont des aliments qui coûtent cher, en général?
Bon, ça dépend des saisons, en fait. Hors saison, ce sont des aliments difficiles à avoir à des prix raisonnables pour la plupart des patients de niveau socio-économique un peu bas. Sinon, en général, en période haute saison, en fonction donc de la production, de la disponibilité des fruits, on peut avoir des fruits à des tarifs intéressants.
Et professeur Alain Attia, combien y a-t-il de gastro-entérologues en Côte d'Ivoire environ?
On est une trentaine à peu près de gastro-entérologues en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a une répartition un peu inégale, puisque l'essentiel des gastro-entérologues sont dans la capitale économique à Abidjan.
Difficile donc d'accéder à un gastro-entérologue en dehors d'Abidjan.
Voilà. Il y en a quelques-uns à Boaké, la deuxième ville en termes de densité populatoire, et puis un seul gastro-entérologue dans la capitale économique. Et dans la capitale politique,
Yamoussoukro. Quel message est-ce que vous aimeriez faire passer, professeur Alain Attia, sur ce sujet-là, des maux de ventre?
Alors, ces maux de ventre peuvent, comme je l'ai dit, reflètent généralement une pathologie fonctionnelle qui peut altérer la qualité de vie, mais peut cacher une maladie organique, en particulier un cancer ou une autre maladie organique. Et donc, si le sujet en particulier a plus de 50 ans et que c'est un sujet qui a des signes d'alarme, ne pas hésiter à consulter. Mais d'une manière générale, consulter un médecin lorsqu'on a ces symptômes et qu'on est gêné dans sa qualité de vie, et il appartient au médecin, de, en fonction des caractères de, des signes associés à la douleur, de rassurer le malade, de proposer des examens le cas échéant, et de prendre en charge le traitement de la maladie qu'il aurait identifiée.
Merci, merci professeur Alain Attia. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint en hépato-gastro-entérologie au CHU de Yopougon à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Jean-Marc Sabaté, nous en parlions il y a un instant avec le professeur Alain Attia. Quels sont les signes qui indiquent qu'il faut impérativement consulter un gastro-entérologue ou un médecin dans la mesure du possible ?
Alors, je profite aussi pour présenter mes vœux au professeur Alain Attia. Alors, pour les signes, comme il l'a très bien dit, c'est variable suivant. L'âge en lui-même, déjà, est un signe qui doit faire considérer les choses de manière différente.
C'est pour ça que vous posez la question à un auditeur,
voilà,
d'ailleurs, de son âge.
Effectivement, la barrière de 50 ans est une barrière à partir de laquelle on considère, nous, qu'il faut faire des examens. C'est d'ailleurs pareil pour les gens qui se plaignent de reflux. On ne traite pas de la même manière des gens qui ont moins de 50 ans ou plus de 50 ans. À partir de 50 ans, on va souvent nous proposer aussi une fibroscopie gastrique pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies ou en cas de résistance au traitement. Donc la résistance au traitement habituel, des antécédents aussi familiaux de cancer digestif, un amaigrissement inexpliqué, des douleurs qui ne passent pas, tout ça doit être des signes d'alarme.
Et il faut absolument consulter dans ces cas-là.
Il faut consulter, et aussi quand c'est des symptômes digestifs qui concernent plutôt le côlon, le fait d'avoir des saignements digestifs, là aussi doit faire consulter, même si ça peut être un saignement hémorroïdaire, mais il ne faut pas attribuer soi-même un saignement à des hémorroïdes et retarder une consultation.
Et parmi les aliments qu'on accuse d'être responsables de certains maux de ventre, on parle souvent du sel et des épices aussi à forte dose. Qu'en est-il ?
Alors le sel, moi personnellement, je ne le considère pas comme mauvais. Pour l'hypertension, c'est connu, mais si, les épices, par contre, effectivement, peuvent provoquer, alors chez les gens qui ont de la colopathie, des douleurs et de la diarrhée, ça a été rapporté. Enfin, c'est les patients eux-mêmes qui le disent, que la consommation d'épices leur déclenche ces symptômes. Et les épices très forts peuvent parfois provoquer aussi des douleurs gastriques. Hein, il est même arrivé que devant des douleurs très fortes, on fasse une fibroscopie et qu'on retrouve un piment planté dans la muqueuse gastrique avec une inflammation autour. Donc il y a des épices très forts. Il faut savoir que dans certains épices, il y a ce qu'on appelle de la capsaïcine, en fait, qui stimule les terminaisons nerveuses du tube digestif et qui peut provoquer des douleurs. Donc ça peut expliquer une partie des symptômes provoqués par ces épices forts.
Je vous lis aussi la question de Justine qui nous écrit sur Facebook, qui est à Libreville au Gabon. Elle demande pourquoi à chaque fois que je prends du jus de citron, j'ai mal au ventre et j'ai la diarrhée. Alors le citron ?
Alors le citron lui-même, alors il y a des gens qui peuvent avoir en dehors de phénomènes liés de comme on l'a dit aux fermentations par certains types d'aliments, il y a des gens qui peuvent avoir des intolérances à certains aliments. Si c'est un aliment unique comme dans le cas de Justine, bon, sauf à ne pas pouvoir s'en passer, il paraît plus simple d'essayer de l'éviter. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui prennent du citron et qui n'ont pas ce problème-là. Donc c'est pas lié au citron lui-même, c'est peut-être une réaction que fait Justine à cet aliment. Si c'est seulement le citron, bah, peut-être il faut prendre un autre agrume.
On a aussi Ali Njamena qui nous demande sur Facebook « Si je mange des fruits comme la banane, ça me donne mal au ventre. Comment puis-je éviter cela ?»
Alors, pour la banane, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'études, mais en général, on considère qu'elle peut avoir un pouvoir constipant. Je ne sais pas si mes collègues africains diraient la même chose. Donc, si c'est associé à une constipation, peut-être qu'il y a une consommation trop grande de bananes et qu'il faudrait la diminuer. Nous, ça ne fait pas partie des fruits les plus fréquemment incriminés. Donc, c'est peut-être la trop grande consommation de bananes
qui en cause.
Peut-être ne pas en abuser.
Comme de chaque chose. Nous sommes en ligne avec une auditrice, Gloria, qui est en France. Bonjour, Gloria.
Oui, bonjour Charlie.
On vous écoute, Gloria.
Alors oui, moi ça fait quelques années depuis mon adolescence que j'ai des problèmes de constipation. J'ai toujours le ventre gonflé, j'ai vu des médecins, j'ai pris des traitements. Et dernièrement, je me suis résignée à arrêter le pain, réduire ma consommation de riz. J'ai remarqué qu'en consommant des fruits, notamment la pomme, j'allais beaucoup mieux et beaucoup plus à la selle. Il m'arrive de pas aller à la selle pendant une semaine, par exemple, et ça me fait très mal. Mais j'ai pas de, je cherche des remèdes, mais j'en ai pas. Je me tourne vers la naturopathie, mais rien n'y fait. Là, le seul remède que j'ai trouvé, c'est de moins manger et de réduire tout ce qui est à base de farine.
Et vous ne suivez plus de traitement actuellement?
Non, parce que je ne veux pas. C'est trop contraignant de prendre une sorte de laxatif ou un sachet qui va me permettre d'aller à la selle. C'est vraiment le point pour moi, c'est de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir aller à la selle quand j'en ai besoin.
Et vous parlez
j'en ai besoin.
Vous parlez de naturopathie. Alors quel remède est-ce que vous consommez par exemple?
Alors je vais prendre des tisanes qui vont me permettre de mieux digérer. C'est surtout à base de plantes. Voilà.
Merci Gloria pour votre témoignage, professeur Jean-Marc Sabatel. On voit que Gloria souffre de constipation chronique, hein, une semaine sans aller à la selle, et elle dit moins manger. Comment faire?
Donc, d'une part, c'est un problème fréquent.
Et d'ailleurs, les femmes sont 2 à 3 fois plus souvent victimes de constipation que les hommes.
Comme pour la colopathie fonctionnelle, alors il y a des hypothèses hormonales mais qui tiennent pas trop la route en dehors de la grossesse qui constipe. Il y a peut-être aussi peut-être plus de femmes qui déclarent leurs problèmes par rapport aux hommes, parce que en tout cas dans notre société occidentale, c'est souvent considéré comme une pathologie féminine, traitée comme telle dans la presse féminine, et donc il y a une sous-déclaration, je pense, de certains hommes qui n'osent pas trop en parler. En plus, c'est des problèmes dont les gens se vantent pas forcément, qui ont un peu un caractère tabou, les selles, ne pas aller aux toilettes, tout ça. Donc, et il peut y avoir une plus grande fréquence de femmes qui consultent alors qu'il y a peut-être plus d'hommes qui restent douloureux en silence. Et la fréquence d'ailleurs, ou la prévalence, le rapport entre hommes et femmes n'est pas forcément même dans tous les pays. En Asie notamment, il y a plus d'hommes en Europe qui ont ce type de problème.
Et là on voit alors que Gloria a appris à vivre avec cette constipation chronique, bon gré mal gré.
Alors, je lui conseillerais pas forcément, si sa qualité de vie est très altérée, de rester comme ça. Après, il faut voir quel est le confort qu'elle a à prendre, et déjà si les traitements qu'elle a pris, les laxatifs, parce que certains on peut les prendre toute la vie, si ces laxatifs sont efficaces ou pas, si ça améliore sa qualité de vie. Après, il faut peser le pour et le contre. Parfois, les traitements sont pris mais mal pris. Hein, par exemple, certains laxatifs, il faut les prendre en une seule fois le matin, et les gens divisent la dose en 3, ce qui fait qu'ils ont un inconfort qui est éventuellement plus grand, et ils sont pas améliorés, donc ils appellent ça un échec des laxatifs, sans qu'il y ait forcément d'échec. Elle a aussi peut-être un problème pour l'évacuation des selles, et là, des traitements qui ne sont pas des médicaments pourraient l'aider, de la rééducation, notamment quand on a un problème d'incoordination pourrait l'aider, donc faut faire des examens pour savoir si ça la concerne ou pas. Donc peut-être qu'elle ne reste pas comme ça à souffrir, résignée.
Et la naturopathie, qu'est-ce que vous en pensez? Ces infusions, ces plantes?
Alors il y a moins d'études que pour les médicaments, le niveau de sérieux aussi des études, hein, je suis pas contre tout ça, et moi j'écoute les patients quand ils sont améliorés, je leur dis écoutez, c'est très bien, continuez comme vous faites, hein, si vous pouvez vous payer ces traitements-là et que vous allez mieux, il faut être pragmatique et c'est
pourquoi
ce qui compte. Pourquoi pas? Voilà. Après, faut savoir que dans les traitements que prennent les gens, notamment dans les tisanes, il y a des traitements, des tisanes laxatives qui sont pas forcément plus douces que certains médicaments. Donc voilà, il faut faire attention, c'est pas le caractère naturel entre guillemets qui fait que les traitements sont plus inoffensifs et qu'on peut les prendre notamment sur une longue durée.
Nous sommes en ligne avec Rachel à Abomey-Calavi au Bénin. Bonjour Rachel.
Bonjour madame.
On vous écoute Rachel.
Ok, moi mon problème c'est que j'ai toujours eu des maux de ventre depuis l'enfance. Ça m'arrivait chaque mois en fait. Mais non, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Du coup, j'ai éliminé un bon nombre de choses. que je ne prends plus.
Qu'est-ce que vous avez éliminé, par exemple?
De l'igname pilé, des œufs, du lait, les oranges.
Tout ça, ça vous faisait mal au ventre?
Oui, oui, ça me ballonne le ventre. Et ensuite, je fais la diarrhée. Il y a des vomissements parfois.
Alors, il y a vraiment donc des aliments que vous ne supportiez plus et que vous avez décidé d'arrêter, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez encore mal au ventre?
Oui, aujourd'hui, ça m'arrive lorsque je prends des repas préparés au cours d'une fête, par exemple, ou que je prends assez de viande.
Merci Rachel pour ce témoignage. Alors, professeur Jean-Marc Sabaté, comment expliquer que Rachel ne supporte pas ses aliments? Et là, on en vient aussi à la question de la diarrhée qu'on n'a encore pas abordée.
Alors, quand il s'agit d'un grand nombre d'aliments, il faut faire attention quand même aux exclusions qui peuvent faire qu'on n'a plus grand-chose à manger hein, parmi les aliments restants. Il est aussi difficile quand on prend des repas où beaucoup de choses sont mélangées, ou même quand certains aliments peuvent avoir un effet retardé, d'incriminer spécifiquement un aliment. Hein. Donc, parfois, on va faire un repas où il y a 3 ou 4 aliments différents, et puis 3 heures après, on fait un autre repas, on a mal au ventre dans la suite. Qu'est-ce qui est responsable de vos douleurs? Donc, il faut faire attention avant d'éliminer tous ces aliments. Après, il peut y avoir des mécanismes communs provoqués par les aliments, comme notamment ce qu'on a dit précédemment, les phénomènes de fermentation. À ce moment-là, c'est plutôt des classes d'aliments qui favorisent ces fermentations qu'on élimine, en gardant ceux qui ne le donnent pas. Donc, elle peut demander à son médecin les listes d'aliments, par exemple, qui éliminent les food maps, pour voir si ça ne suffirait pas, et si elle ne peut pas retrouver un confort en mangeant plus d'aliments variés.
Tout notamment. Ça pour éviter de nouvelles diarrhées, notamment.
Pour éviter la diarrhée, qui est un des mécanismes liés à cette consommation de sucre, d'hydrates de carbone. En fait, certains de ces aliments ont le pouvoir d'absorber de l'eau, comme le font d'ailleurs certains laxatifs. C'est comme ça que ça marche pour certains laxatifs. Ils attirent de l'eau, et après, il y a un effet chasse d'eau. Il faut.
C'est-à-dire qu'il libère l'eau.
Voilà. Cette eau arrive pas dans l'estomac. En fait, c'est dans l'intestin grêle que certains de ces aliments en fait ont la capacité d'attirer de l'eau et ça provoque un effet chasse d'eau. Et par exemple, ça peut être le cas pour des gens qui consomment des grandes quantités de chewing-gum avec des sucres à l'intérieur ou beaucoup de cerises. La diarrhée, par exemple, liée à la consommation excessive de cerises est liée à ce mécanisme-là, une diarrhée osmotique.
La cerise, décidément, on en parle beaucoup dans cette émission. Alors, on n'a pas encore parlé de la question des remontées gastriques. Nous sommes en ligne avec Nathan à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Bonjour Nathan.
Bonjour.
On vous écoute, Nathan. Je suis désolée Nathan, je crois que la ligne est vraiment très mauvaise, on va pas pouvoir vous entendre. Je vais lire le message que vous nous avez écrit sur Facebook. Donc Nathan souffre depuis 5 mois de remontées gastriques qui, dit-il, lui pourrissent la vie. Il a perdu beaucoup de poids, ça lui fait mal au niveau du ventre, de la poitrine. Voilà, ses problèmes ont repris, il a été hospitalisé plusieurs fois. Comment trouver une solution à ce problème? Cela le désespère, c'est ce qu'il nous demande, professeur Jean-Marc Sabaté. Alors déjà, les remontées gastriques, à quoi sont-elles dues? Et puis, effectivement, quelle solution pour ce type de problème?
Alors, il est naturel d'avoir, tout le monde a des remontées gastriques, mais en nombre limité, et notamment, c'est favorisé par les repas. Maintenant, ce qui est anormal, c'est quand elles sont trop fréquentes ou qu'elles sont de durée trop importante, et ça peut créer des brûlures, des douleurs et même d'autres conséquences. Là, je note quand même qu'il a maigri. Alors même s'il allait à l'hôpital et qu'il a eu des traitements, nous les gens qui sont jeunes, on leur fait pas forcément un examen en première intention. On tente des traitements avant, mais si à l'arrêt des traitements les symptômes reviennent ou s'il y a des symptômes d'alerte, comme le précisait le professeur Alain Attia, là le symptôme d'alerte c'est un amaigrissement. Il va falloir faire un examen quand même pour s'assurer que c'est un reflux banal et qu'il n'y a pas eu une pathologie. Donc je ne sais pas s'il a fait une fibroscopie gastrique, mais je lui conseillerais d'en faire une.
D'en faire une, effectivement. Il y a une dernière question que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle du gluten, hein, qu'on accuse d'être responsable de tous les maux. Donc le gluten, c'est un ensemble de protéines qu'on retrouve dans certaines céréales, comme le blé, mais aussi le seigle, l'avoine et puis d'autres. Alors on a beaucoup de nouveaux cas d'intolérance en gluten. Est-ce une mode? Comment l'expliquer? Quel est votre regard là-dessus?
Alors je pense qu'il y a en partie un effet de mode. Et on entend pas mal de gens d'ailleurs qui se mettent sous régime sans gluten sans trop savoir pourquoi. Après, pour ce qui est des problèmes digestifs et notamment de la colopathie fonctionnelle, donc il y a des gens, il y a deux idées. La première, c'est que des gens voulant faire un régime sans gluten et le faisant d'ailleurs pas parfaitement, diminue certains types d'aliments, dont ceux dont on a pas mal parlé, les food maps, là, qui favorisent les fermentations, et donc indirectement sont améliorés en faisant ce régime sans gluten. Ils attribuent ça à la diminution du gluten, mais ça n'est pas forcément lié à cela. Puis il y a une autre entité un peu nouvelle qu'on appelle maintenant la sensibilité au gluten non cœliaque, qui sont des gens qui n'ont pas de maladie cœliaque. Donc, mais ces gens-là, d'eux-mêmes, font un régime sans gluten et ont une amélioration de leurs symptômes digestifs. Donc, on connaît encore assez mal les mécanismes de cette maladie, mais en général, comme ils vont mieux, ils ne viennent pas consulter. Donc moi, personnellement, j'en vois assez peu. Je vois ceux qui ont fait le régime sans gluten et qui ont toujours des symptômes. Mais il y a sûrement une partie de la population qui se dit améliorée. Alors, si ça dure moins de 2 mois, ça peut être un effet placebo quand même.
Et autre conseil à donner très rapidement, c'est celui de l'activité physique, du sport, qui peut aider à mieux digérer.
Alors, l'activité physique, effectivement, peut améliorer les problèmes de colopathie fonctionnelle. La digestion, pas forcément. En tout cas, une activité physique soutenue juste après un repas n'est pas forcément conseillée. Mais il a été montré par des collègues suédois que l'activité physique améliorait les symptômes, la sévérité des symptômes de la colopathie et que ça pouvait être même cette amélioration durable dans le temps.
Professeur Jean-Marc Sabaté, vous restez avec nous. Nous allons parler dans un instant de l'épidémie de grippe à laquelle fait face la France en ce moment.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour, professeur Alain Goudeau.
Bonjour.
Vous êtes professeur de bactériologie et de virologie à la faculté de médecine de Tours. Merci d'être en ligne avec nous. Une épidémie de grippe touche l'ensemble de la France métropolitaine. En ce moment, le seuil épidémique est atteint. La Corse est encore épargnée. Ces épidémies sont fréquentes en période hivernale?
Bien, elles sont constantes. Hein. Il y a toujours un pic de grippe en période hivernale, en France en tout cas, hein. Avec une variabilité assez grande d'une année à l'autre, hein, qui varie en fonction de la température moyenne, de la nature des souches qui circulent. On a eu il y a 3 ans une grosse épidémie, par exemple, qui a atteint presque le niveau de la pandémie de 2009. On ne sait pas encore. Cette année, ça a l'air plus modeste, mais on en saura plus quand ça sera fini.
Alors, quels sont les symptômes de la grippe ?
Ah ben écoutez, si j'en croyais ma ministre il y a quelques années, c'est très facile à diagnostiquer une grippe. Or, c'est pas vrai. C'est assez difficile à diagnostiquer une grippe, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une grippe qu'autre chose. En gros, ce qu'on appelle le syndrome grippal, c'est de la fièvre, une toux, éventuellement des images pulmonaires, et puis des douleurs musculaires et articulaires. Ça peut se voir dans une infection grippale, mais dans plein d'autres infections dues à des virus respiratoires de nature diverse. Il y a environ une quinzaine de virus capables de donner un syndrome dit pseudo-grippal.
Et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour se protéger, pour éviter d'être contaminé?
C'est difficile, hein. La grippe est très transmissible. Hein. Les gens vont expectorer du virus en toussant, par exemple. En général, on ne porte pas de masque en France, alors qu'en Asie, c'est assez fréquent de le faire. Les gens ne se lavent pas toujours les mains après avoir toussé. Des virus, il en circule beaucoup. Tout contact avec une collectivité, je pense, prendre le bus, aller à l'école, être dans son milieu de travail, c'est une occasion d'être éventuellement contaminé par le virus de l'hépatite. Donc, c'est pas facile de se protéger physiquement, barrière mécanique en quelque sorte. Donc, le meilleur moyen de se protéger, c'est la vaccination.
Merci beaucoup professeur Alain Goudeau. Je rappelle que vous êtes professeur de bactériologie et de virologie à la faculté de médecine de Tours. Professeur Jean-Marc Sabaté, je me tourne vers vous puisque l'un des autres fléaux de l'hiver en France, c'est aussi la gastro-entérite, hein, cette inflammation de la muqueuse, de l'estomac et de l'intestin. Alors, quelles recommandations faire à ce sujet-là pour éviter d'être contaminé cette fois par la gastro-entérite ?
Alors, c'est les mêmes précautions d'hygiène que celles qu'a développé mon collègue précédent. Il faut faire attention, bien se laver les mains après la selle, utiliser éventuellement les solutions hydroalcooliques. Et quand on sait que quelqu'un est malade dans l'environnement, bien limiter les contacts avec cette personne. Après, effectivement, il y a des périodes où il y a plus ou moins de gastro-entérite. Là, il y a eu, je crois, une épidémie en région parisienne en fin d'année.
La gastro-entérite est proche du seuil épidémique actuellement en France, sur l'ensemble du territoire. Et cette maladie est d'origine virale, aussi bactérienne.
Alors c'est plus géré d'ailleurs, nous on n'a pas le temps, parce que vu les délais de consultation, c'est des maladies qui sont gérées en première ligne par les médecins généralistes. Et donc si ça dure trop longtemps, il faut consulter son généraliste. S'il y a notamment une déshydratation chez les personnes fragilisées aussi, à ce moment-là, il faut consulter son généraliste.
Consulter, c'est le maître mot de cette émission. Merci. Merci, professeur Jean-Marc Sabaté, d'être venu participer à notre émission Priorité Santé, d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassen, Sigrid Azeroual. Merci également à Tiffany Menta. Merci aussi à tous pour votre écoute, pour vos questions, pour vos témoignages. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des conflits au sein de la famille à l'adolescence. Les relations entre parents et enfants peuvent se dégrader. Comment gérer ces conflits? Et puis aussi les conflits entre frères et sœurs. À demain dans Priorité Santé.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.